Matin tout le monde. Je m'appelle Greg et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Prions avant de commencer. Père du ciel, on te remercie pour aujourd'hui. Merci pour ce temps ensemble. Merci pour nos pasteurs et anciens qui sont ensemble aussi pour chercher ta direction. Et merci parce que aujourd'hui, à travers ta parole, tu touches nos cœurs, nos vies et nos pensées. Et on a besoin de toi, Père du ciel. On a besoin de ta parole. Jésus dit qu'on ne peut pas vivre de pain seulement, mais de chaque parole qui vient de toi. Donc, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir des merveilles dans ta parole. Au nom de Jésus, amen. Quand les tragédies frappent les gens de notre communauté, comme les tornades qui ont frappé la région le 21 septembre, nous sommes reconnaissants pour ceux et celles qui se conduisent en bons samaritains. Ça me fait penser de... Oh, ça marche, c'est bon. Nous sommes touchés par des histoires des gens qui ouvrent leur maison pour héberger des sinistrés ou d'autres qui ont ramassé des débris sur les terrains des gens qui étaient affectés par des tornades ou encore d'autres qui ont préparé de la nourriture pour des victimes ou pour les premiers répondants aussi. Et le bien-être de notre société dépend des tels gestes d'amour. Et c'est pour ça que nos lois même l'encouragent. Le Code civil du Québec à une loi où quelqu'un qui essaie de faire du bien à quelqu'un qui est dans la crise, mais qui a fait des dommages non voulus, n'est pas responsable de cela. Mais autant que ces gestes d'amour sont reconnus comme nécessaires pour le bien-être de notre société, de nous, autant qu'ils sont aussi reconnus comme en manque souvent. Et même la loi au Québec nous oblige de porter du secours à quelqu'un qui est en crise, qui est en danger de perdre sa vie. Et les lois nous encouragent, nous obligent même de faire ça, parce qu'on sait qu'il y a des chances qu'on ne le fait pas d'une manière naturelle. Donc, comment créer une société dans laquelle ces gestes d'amour viennent plus spontanés, plus naturels de nous? Comment créer une société des bons samaritains? Et nous trouvons une solution dans la foi chrétienne. La foi chrétienne est capable de nous équiper des outils pour aimer d'une manière naturelle et profonde. Et ce matin, pour nous équiper, nous allons regarder l'histoire biblique par excellence au sujet de l'amour pour son prochain, qui est la parabole du bon samaritain. Et dans cette parabole, Jésus nous parle de trois réalités. La priorité d'aimer son prochain, le défi d'aimer son prochain, mais aussi la motivation pour aimer son prochain. Jésus nous rend conscient de la priorité d'aimer son prochain. En même temps, il ouvre nos yeux à des obstacles qui rendent cet amour difficile pour nous. Mais finalement, il dévoile la motivation qui est capable de surmonter ça et de nous donner cet amour. Donc, si vous avez une Bible, tournons ensemble dans l'Évangile selon Luc, et chapitre 10, à partir de verset 25. Et si tu as la Bible blanche, c'est sur la page 671. Donc l'Évangile selon Luc, chapitre 10, à partir de verset 25. Et découvrons ensemble cette priorité, ce défi, mais aussi cette motivation pour aimer. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, « Va, agir de la même manière, toi aussi. » Donc, Jésus d'abord nous présente la priorité d'aimer son prochain. Et nous voulons aimer notre prochain parce que Dieu aime son prochain. On voit ici qu'un professeur de la loi vient poser une question piège à Jésus. Et cet homme, expert légal dans le Torah, l'ensemble des directives de Dieu pour savoir vivre, il vient à Jésus avec une grande question. Verset 25. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » En d'autres mots, qu'est-ce que je dois faire pour être acceptable pour Dieu? Et Jésus lui demande de fournir sa propre réponse. Et de sa bonne compréhension de la loi, le professeur répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus est en accord avec ce qu'il dit. Il dit, « Oui, tu as bien répondu. » Donc, Jésus est en train de souligner que l'amour pour notre prochain, aux yeux de Dieu, est aussi important que l'amour pour lui-même. Et pourquoi ça? C'est parce que Dieu aime son prochain. Et la Bible nous dévoile un Dieu qui aime son prochain. Il y a quelques versets ici qui parlent de l'amour de Dieu pour le prochain. Deutéronome 10, versets 17 à 19. Dieu fait rappeler à son peuple, « En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger en Égypte. » Dieu a un cœur sensible pour les gens les plus vulnérables dans notre société, l'immigrant, la veuve et l'orphelin. Et on voit aussi que Dieu aime d'une manière active. On voit que Dieu fait droit à l'orphelin. Il donne la nourriture et les vêtements à l'immigrant. Et en plus, Dieu a déjà fait preuve de cet amour actif dans le cas du peuple juif. Le deuxième passage en Exode, dit, c'est Dieu qui a rencontré Moïse pour dire, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusqu'à dans un bon et vaste pays. » Dieu désire aussi que son peuple fasse preuve du même amour. Et le troisième passage nous raconte un de ces exemples dans les Écritures. Deutéronome 15, 7 à 8. Dieu dit, « S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. » Selon le grand dictionnaire de la Bible, et je cite ici, « Le grand nombre des lois émanant du souci des défavorisés, les pauvres, les veuves, les orphelins, les immigrés sans terre est d'ailleurs remarquable. Non seulement leur oppression était interdite, mais l'obligation était faite aux Israélites qui en avaient les moyens de leur venir matériellement en aide. C'est incroyable de penser que Dieu connaît les douleurs chez nos voisins et chez nos prochains. Et il désire intervenir dans leur vie à travers nos mains, à travers nos paroles, à travers nos vies vraiment. Peut-être ce matin, tu questionnes si dans la foi chrétienne, on devrait avoir une priorité sur des actes comme ça. Tu te méfies d'un discours qui parle des bonnes paroles, qui met la priorité sur les bonnes paroles, au lieu de mettre la priorité sur Dieu. Et moi aussi. Mais Jésus veut nous faire comprendre que quand nos cœurs sont vraiment centrés sur Dieu, nous allons nous engager pour le bien-être de notre prochain. Prenons l'exemple du mariage. Dans un mariage, l'homme et la femme s'engagent envers l'autre pour s'aimer. Mais en réalité, l'engagement est aussi envers toute personne qui est importante dans la vie des mariés, n'est-ce pas? Si le mari aime sa femme, il va respecter la place importante que sa propre famille a pour elle. Comme à cause de ça, il va prendre une partie de ses vacances pour être avec sa belle-famille. Il va chercher à apporter de l'aide aux membres de sa belle-famille. Il va ouvrir sa maison pour recevoir sa belle-famille. Et cet engagement ne vient pas nécessairement d'un amour naturel pour sa belle-famille, mais cet engagement vient du fait que ces gens sont chers à sa femme et donc il veut leur bien. Et s'engager d'aimer son prochain est semblable à aimer Dieu, parce que son prochain est cher à Dieu. Nous aimons notre prochain parce que Dieu aime son prochain. Et Jésus dit, fais cela et tu vivras. Mais aimer son prochain, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Et cela nous amène à la deuxième réalité, le défi d'aimer son prochain, parce que c'est un défi. Et cette histoire nous expose à plusieurs obstacles qui rendent cet amour difficile. Le premier obstacle qu'on voit est dans la question qui est posée par le professeur au verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Je ne pense pas que le professeur demandait à Jésus de l'aide pour s'introduire à ses voisins. J'imagine dans une communauté agricole comme ici, tout le monde se connaissait. Mais pour nous aujourd'hui, la question « Qui est mon voisin? » est juste. Moi et ma femme, on vient d'écouter le film « Pieds nus dans l'aube », qui est un film sur l'enfance du chansonnier québécois Félix Leclerc. Un très bon film. Le film donne l'impression, au moins pour moi qui viens d'Ontario, que la vie québécoise était auparavant une vie communautaire. On voit dans le film que l'appartenance à la communauté était très profonde. Les gens se connaissaient les uns les autres et les gens dépendaient les uns les autres pour survivre. Et donc, les vies étaient entrelacées au point que les gens étaient sensibles aux besoins et aux difficultés chez leurs voisins. Et cette manière de vivre a favorisé un esprit d'entraide naturelle pour assurer le bien-être de tout le monde. Mais aujourd'hui, connaître nos voisins est un vrai défi. Nous déménageons trop souvent pour vraiment établir des relations profondes avec nos voisins. Nous voyons nos maisons comme des abris qui nous protègent de l'incertitude du monde, n'est-ce pas? Nous payons des experts pour régler nos problèmes, plutôt que dépendre de nos voisins pour nous aider. Et même nous nous divertissons souvent dans des loisirs individualistes. Donc, dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut vraiment créer des vraies relations avec nos voisins? Une des solutions est d'utiliser nos routines de vie déjà établies pour bénir. Par exemple, nous mangeons en moyenne 21 repas par semaine. Pour moi, souvent, c'est un peu plus, mais en tout cas. Pourquoi ne pas inviter un voisin dans un de ces 21 repas? Chaque matin, nous bravons la circulation pour rentrer à l'école ou au travail. Pourquoi ne pas offrir du covoiturage à un voisin, même si ça va nous prendre peut-être 10 minutes plus pour nous rentrer? Pendant ta pause, tu cherches un café à McDo ou à Tim Hortons. Pourquoi ne pas apporter un café ou quelque chose d'autre pour quelqu'un dans ta classe ou un collègue du travail aussi? De retour à la maison, nous perdons la neige qui est accumulée pendant la journée. Pourquoi ne pas déneiger les marches de notre voisine à côté? Pendant la fin de semaine, on travaille autour de la maison. Pourquoi ne pas aider notre voisin avec les mêmes sortes de projets que nous? On peut utiliser les routines de nos vies pour bénir. Et souvent, ça ne coûte pas une activité de plus à nos horaires déjà chargés. Mais il y a un autre obstacle qui nous empêche d'aller vers le voisin. Et ça, c'est la peur. Apprécions la peur dans cette histoire, au verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait, est-ce que vous m'entendez? Oui. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. » Les historiens disent que le chemin entre Jérusalem et Jéricho était très dangereux. C'était un chemin, vous pouvez voir dans l'image ici, c'était un chemin qui serpenterait à travers un terrain rocheux et déserté. Il y avait beaucoup d'endroits pour les brigands, les voleurs, de se cacher afin de surprendre leurs victimes. Et en voyant l'homme à demi-mort sur ce chemin, le prêtre et le lévite devaient avoir peur. Et c'est tout à fait naturel. Ceux qui viennent des régions du monde où la violence fait partie de la vie quotidienne comprennent cette peur. Pour nous, dans notre société, l'hésitation d'aller vers notre prochain vient plutôt de la peur de l'influence négative du prochain et de son milieu. Il se peut que nous trouvions son style de vie, ses préoccupations et même son langage malsain. Et cette peur est plus élevée quand nous avons des enfants, n'est-ce pas? Nous voulons influencer nos enfants vers des croyances chrétiennes et vers des bons choix de vie. Nous ne voulons pas exposer nos enfants au mal. Mais rappelons-nous que Jésus a élevé ses disciples dans le monde. Par exemple, on voit Jésus chez Matthieu et ses amis pêcheurs. On voit que Jésus se servit des relations avec des gens pour enseigner des enseignements spirituels à ses disciples, quand il a pris du temps avec la femme samaritaine qui peut-être était une prostituée. Jésus avait confiance que son influence était plus grande que le mal. Et nous devons croire dans l'influence de Jésus-Christ dans nos vies. Et c'est justement pour cela qu'un groupe maison où plusieurs chrétiens qui habitent dans le même quartier ou le même secteur de la ville peut avoir une énorme influence sur leur entourage. Et quelle belle manière d'enseigner la vie de disciple à nos enfants aussi. Ma femme est en train de lire un livre qui s'intitule « L'Évangile vient avec une clé de maison » par une femme qui s'appelle Rosaria Butterfield. Et dans ce livre, Rosaria nous encourage de pratiquer une hospitalité radicale dans notre monde. Et c'est à travers l'hospitalité des chrétiens que Rosaria a été influencée par Jésus-Christ. À ce moment-là, dans sa vie, elle se décrivait en tant que féministe et lesbienne, un leader dans la communauté LGBTQ, un défenseur des droits d'avortement, un professeur athée, et une grande critique des chrétiens et de leurs vues étroites. Mais tout a changé quand la famille Smith l'a accueillie chez eux. Elle raconte, « Chez eux, rien ne m'a préparé pour l'évangile sans cesse. et pour l'amour de Jésus qui se manifestait par les pratiques quotidiennes de l'hospitalité vécue dans cette maison chrétienne ordinaire. Cette maison chrétienne est devenue mon abri pendant 2 ans, bien avant que j'aie franchi le seuil d'une église. La maison Smith était le lieu dans lequel j'ai lutté avec la vérité de la Bible, avec la réalité de Jésus et enfin avec mes choix de vie et mon péché. Jésus veut avoir et il va avoir la même influence à travers nos vies et nos foyers aussi. Donc l'ignorance du voisin, la peur du voisin, un autre obstacle de plus qui empêche l'amour est le sacrifice personnel qui est demandé. Remarquons le sacrifice extraordinaire du Samaritain. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Bien sûr que le Samaritain avait des projets personnels pour prendre ce voyage. Mais quand il voit l'homme à demi-mort, il laisse de côté ses propres projets. Le Samaritain dispose de ses propres ressources pour offrir des premiers soins. Il s'allie son animal de route pour conduire l'homme à l'auberge. Il passe la nuit à l'auberge pour prendre soin de l'homme. Et au matin, le Samaritain donne un montant qui représente 2 journées de travail pour que l'aubergiste prenne soin de l'homme. Puis, il promet de retourner voir l'état de l'homme et de dépenser encore plus si c'est nécessaire. Le sacrifice personnel qui est demandé ici est impossible si nous cherchons notre bonheur à tout prix. Dieu désire que nous soyons heureux, mais il nous a créés pour trouver notre bonheur en lui et pour recevoir de sa part les choses qui nous rendent heureux. Mais si nous choisissons plutôt de chercher le bonheur ailleurs qu'en lui, nous allons trouver ça impossible de venir en aide à nos voisins quand c'est demandé. Comme exemple, si je cherche mon bonheur dans un voyage que je planifie depuis 3 ans, je vais trouver ça impossible de sacrifier mes économies quand mon voisin vit une crise financière. Pourtant, si je me confie dans la promesse que Dieu me donne le bonheur, je vais trouver ça plutôt facile d'intervenir chez mon voisin. Donc, le sacrifice personnel. Mais il y a un dernier obstacle aussi. Le manque de compassion. La compassion distingue le Samaritain des 2 autres voyageurs, n'est-ce pas? On voit au verset 33 la compassion dans son cœur. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Ce mot compassion veut dire d'être touché intérieurement par les circonstances des autres et de chercher à partager leurs souffrances. La compassion vient du cœur. La compassion dans le cœur du Samaritain surmonte la réalité que cet homme est un étranger et son ennemi, surmonte la peur qu'il a et surmonte le sacrifice personnel pour intervenir. Le prêtre et le lévite, malgré leur grande connaissance de la loi de Dieu, n'ont pas cette compassion. Mais la compassion du Samaritain le motive à agir comme le vrai prochain. Donc, comment obtenir cette compassion? Et cela nous amène à la 3e réalité, la motivation pour aimer notre prochain. Nous n'aurons jamais la compassion tant que nos cœurs sont préoccupés par le besoin de se justifier. Remarquons pourquoi le professeur s'intéresse à ce sujet de son voisin. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, il est préoccupé par le besoin de se justifier, de prouver qu'il est acceptable. Son cœur est insécure au sujet de son état devant Dieu. Pour lui, aider son prochain est un moyen pour prouver qu'il est acceptable. Et il ne veut, au lieu de déborder d'amour, il ne veut que savoir le minimum qu'il doit avoir pour son prochain, pour obtenir sa propre justice. Mais Jésus ne le laisse pas obtenir sa justice, se justifier. Si Jésus voulait l'appuyer, il aurait fait du troisième voyageur dans l'histoire le personnage d'un professeur de la loi. Et l'homme aurait compris que pour hériter la vie éternelle, il faut simplement aider son voisin, même dans des cas extrêmes comme ceci. Mais le troisième voyageur est un Samaritain, un membre d'un peuple méprisé par les Juifs et considéré comme étant une race impure avec une religion erronée. Ce professeur juif ne se serait jamais identifié avec lui. Si nous ne sommes pas confiants que Dieu nous accepte, nos cœurs seront toujours préoccupés par le besoin de se justifier. Et un tel cœur n'est pas libre d'agir par la compassion. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un ici aujourd'hui qui dit, « Mais moi, Greg, je ne partage pas ton problème avec ton Dieu. Moi, je ne suis pas une personne religieuse, et donc je suis libre. Je suis libre de l'illusion que je dois rendre des comptes à Dieu. Moi, je crois en moi, je m'accepte parce que je suis une bonne personne, et je suis sécure. Mais j'imagine que tu partages les mêmes insécurités que moi, dans le fond. Et on peut voir ça à travers la manière qu'on vit. Est-ce que tu te sens le besoin de trouver des excuses pour tes manquements, ou de blâmer les autres pour tes erreurs, ou de te défendre quand les autres te critiquent, ou de te péter les bretelles quand tu fais un bon coup? Nous nous ressentons tous ce que la Bible essaie de nous dire, que nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, et que nous sommes pécheurs sur le plan moral. Peut-être que tu ne tolères pas ce mot pour te décrire. Mais si tu n'acceptes pas que tu es d'abord pécheur, tu ne trouveras jamais la vraie sécurité que Jésus veut t'offrir. Il y a une bonne nouvelle. Dieu lui-même a fait quelque chose pour nous rendre acceptables. Voyons, il y a un autre bon Samaritain. Le Samaritain, dans la parabole ici, voyageait par hasard sur ce chemin où se trouvait l'homme blessé. Mais moi et toi, nous avons un bon Samaritain qui a pris le chemin par exprès, sachant que nous étions là. Le Samaritain, dans l'histoire, a donné tous ses biens matériels pour venir en aide à son prochain. Mais moi et toi, nous avons un bon Samaritain qui a donné sa propre vie pour notre bien. Le Samaritain dans l'histoire s'est porté volontaire pour accompagner l'homme dans les agonies de ses blessures. Mais moi et toi, nous avons un bon Samaritain qui a pris nos péchés sous lui-même dans l'agonie de la croix. Le Samaritain dans cette histoire est parti de l'auberge en faisant la promesse de revenir voir l'état de l'homme. Mais moi et toi, nous avons un bon Samaritain qui promet de nous accompagner par son esprit durant cette vie sur terre et après de nous recevoir dans la vie éternelle. Quand Jésus-Christ est allé à la croix, sa vie parfaite et acceptable a été changée pour nos vies de péché. Et 2 Corinthiens 5, 21 décrit cet échange. En effet, lui, parlant de Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Accepter Jésus comme ton sauveur veut dire d'accepter qu'en lui, tu es acceptable pour Dieu. Oui, tu restes un pécheur. Oui, tu n'arrives ni à aimer Dieu de tout ton être, ni à aimer ton prochain comme toi-même. Mais Dieu ne te voit pas maintenant par tes propres efforts. Dieu te voit à travers la vie parfaite de Jésus-Christ. Et en Jésus, Dieu t'accepte comme tu es, même ce que les autres pensent de toi, peu importe même ce que tu penses de toi. Quand nous n'avons pas besoin de nous justifier, nous sommes libres d'aimer. Et quand nous éprouvons de la misère à aimer, qui nous arrive, nous devons suivre ce conseil du pasteur Tim Keller, Si nous nous trouvons sans le cœur d'aimer, la solution n'est pas de chercher à mieux aimer ou d'aimer davantage. La solution est de contempler Jésus-Christ, celui qui nous donne l'acceptation du Père, une acceptation qui ne peut pas être perdue ou ébranlée. En contemplant cet espoir, nos cœurs se fendront par son amour et déborderont d'amour pour les autres. Au début du dernier siècle, un jeune homme par le nom de Maximilien Kolbe, qui habitait le pays de Pologne, a reçu une vision de Dieu pour sa vie. Et dans sa vision, Dieu lui a donné deux choix, une vie de méditation ou une vie de martyr. Et le jeune garçon a choisi les deux. Le premier choix s'est réalisé il y a quelques années plus tard, quand le jeune homme a choisi la vie religieuse. Mais lorsque l'Allemagne a occupé la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale, Maximilien s'est défié les nazis en cachant des juifs dans son monastère. Cet acte courageux, malheureusement, a été découvert et Maximilien a été envoyé dans le camp de concentration Auschwitz. Là, il a été dévêtu de son identité et il est devenu le prisonnier 16670. Un jour, il y avait trois autres prisonniers qui se sont échappés et échappés du camp de concentration. Et en réaction, les gardes ont sélectionné 10 autres prisonniers par hasard pour les enfermer dans un cachot souterrain pour mourir de faim et de soif. L'un des prisonniers sélectionnés a commencé à crier pour sa femme et ses enfants. Et à ce moment-là, le prisonnier 16670 s'est avancé et vers l'officier en charge et a demandé de prendre la place de son prochain. L'officier ne revenait pas, mais il a accepté sa demande. Les 10 prisonniers ont été dévêtus et enfermés dans le cachot. Et Maximilien a accompagné les autres dans les prières, des mots d'encouragement et des chants. Jusqu'à leur mort éventuelle, évidemment. Après 2 semaines, Maximilien était le seul à rester en vie. Impatient, les gardes l'ont pris et l'ont tué par injection fatale. Son dernier geste était de pardonner ses tueurs. Maximilien Kolbe avait déjà écrit, et il a insisté par sa vie, qu'un seul geste d'amour peut retourner l'homme à la vie. Mes amis, nous avons en Jésus-Christ un Sauveur qui retourne nos âmes à la vie éternelle par un seul geste d'amour motivé par une grande compassion. Laissons la compassion de Jésus-Christ remplir nos cœurs et se répandre sur les gens autour de nous.